CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de mon ami Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors l'entrepreneur de légende du jour va nous permettre de parler d'une thématique qui est peu abordée quand on parle de l'entrepreneuriat, à savoir la publicité. Rares sont les succès fulgurants dans ce domaine et bizarrement même, le nom de l'entrepreneur du jour qui est Marcel Bleustein Blanchet est presque inconnu quand on parle de publicité, contrairement à l'empire qu'il a créé qui est Publicis. Découvrons comment, parti de rien, il a bouleversé le monde de la publicité et des médias.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Marcel Bleustein, j'espère que je le dis bien, est né en 1906 à Enghien-les-Bains et il s'appelle pas encore Blanchet.
Voilà, on va voir plus tard comment est venu ce nom de Blanchet. Donc il naît effectivement en banlieue parisienne, il grandit par contre au cœur de Paris, du côté de Barbès, au-dessus du magasin de meubles de ses parents. Donc ses parents sont des juifs d'origine d'Europe de l'Est qui avaient fui les pogroms pour venir s'installer à Paris et qui à force de... On va dire de labeur, hein, c'est vraiment des gens très pauvres arrivés à Paris avec rien, juste un baluchon, mais qui avaient réussi à se créer une petite situation, un petit magasin de meubles du côté de Barbès.
Du côté de Barbès, donc au-dessus du magasin de ses parents, et lui, un trait de caractère, c'est qu'il n'aime pas l'école, il est plutôt bagarreur.
Oui, alors on pourrait se dire un futur grand entrepreneur qui va réfléchir à la publicité, qui a fait beaucoup d'études.
Ah non, j'ai vendu la mèche, pas du tout.
Pas du tout, il n'aime pas l'école, il n'aime pas trop la discipline. Alors il est vif d'esprit, il est brillant, mais il n'aime pas qu'on le mette un peu dans une boîte. Et effectivement, il passe l'école surtout à se bagarrer dans la cour de récré avec un certain Jean Moncorgé. Ça ne dit rien à personne, parce que son nom de scène, c'est Jean Gabin.
Voilà,
Il se bagarrait. Quand on voit la carrure de Jean Gabin, il n'avait pas peur des coups.
Et il ne devait pas gagner tout le temps.
En effet. Et donc, vu qu'il a une scolarité très, très chaotique, dès 14 ans, en fait, il arrête l'école et il rentre dans l'entreprise de meubles de son beau-frère. Alors, c'est une famille de 9 enfants. Donc, une grande sœur qui avait épousé un autre marchand de meubles, toujours dans le même quartier.
Ouais, le destin était tout tracé, quoi.
Voilà, donc ses parents s'étaient dit, tu n'aimes pas l'école, tu vas reprendre l'entreprise de meubles tôt ou tard. Donc, va apprendre le métier de la vente de meubles chez ton beau-frère. Donc, il a un métier de commercial dans l'entreprise de son beau-frère. C'est un garçon qui a beaucoup de bagou, qui est vif d'esprit, donc c'est plutôt c'est plutôt un bon vendeur. Mais par contre, il n'aime pas trop la discipline, il n'aime pas trop qu'on lui dise d'arriver à l'heure, il n'aime pas trop qu'on lui dise de faire comme ci plutôt que comme ça. Donc du coup, ça se passe pas spécialement très bien. Et donc cette première expérience professionnelle chez son beau-frère va se terminer assez rapidement.
Par un licenciement ?
Oui, on va dire licenciement à l'amiable, voilà.
Tu t'arrêtes.
Je sais pas trop comment ils ont négocié ça, mais...
Mais il va apprendre quelque chose d'important.
Voilà, clairement, même si ça ne dure pas cette expérience, il va en retenir quelque chose, c'est la publicité. Parce que quand il vendait ses meubles, évidemment, il était commercial, donc il s'était un petit peu intéressé à comment faire connaître mon produit, comment susciter l'intérêt du client. Et il avait commencé à rédiger quelques petites annonces pour une vague connaissance qui travaillait vaguement aussi dans le métier de la publicité. Et je dis vaguement, c'est très important, parce qu'à l'époque, publicitaire, ce n'est pas un métier.
Ah ben
il
n'y
a aucune formation qui n'amène au métier de publicitaire. Donc, vu que c'est une profession qui n'est pas encore très, très définie, on dit la réclame d'ailleurs à l'époque, beaucoup plus que la pub.
Oui, c'est pas trop encadré, on ne sait pas trop vraiment encadré. Si ça marche.
Voilà, il n'y a pas vraiment d'études, de retour sur la publicité, et d'ailleurs c'est lui qui va professionnaliser ce métier. Et donc, il rédigeait quelques annonces pour une vague connaissance, qui lui-même, après les plaçait auprès d'agences, etc. Et il se dit, en fait, il y a un marché à prendre, parce que la publicité, en fait, c'est juste avoir une idée, écrire un slogan, et donc il se dit, on peut gagner de l'argent sans trop se fatiguer.
Il y a un bon filon.
Voilà, il se dit qu'il y a un bon filon à prendre.
Et donc, du coup, il décide directement de lancer sa propre agence.
Voilà, donc il a à peine 20 ans, en fait, il a assez peu d'expérience professionnelle, une expérience dans la vente de meubles assez vite avortée, il n'a aucun diplôme, aucune formation universitaire.
Expérience de bagarre, un peu.
Voilà, juste un peu d'expérience de bagarre, mais il se lance et il fonde Publicis. Donc on est en 1926, puisque Publicis, c'est P publicité, hein, le début de Publicis, et le 6, c'est, 1900, c'est le 6 de 1926.
Il est vraiment fort parce qu'il se prend pas trop la tête quand même.
Oui, il n'est pas allé chercher très loin. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont donné leur nom, alors lui, il est un peu plus loin que son nom. Et le logo, c'est le lion. Le logo de Publicis, c'est le lion parce qu'il est, il est né sous le signe du lion.
Et donc, ah oui,
il,
d'accord.
Et donc, pour lui, c'était assez important, les questions d'astrologie, donc il a donné son signe astrologique comme logo à son entreprise.
Ah, ça, c'est un truc à ressortir à table, hein, si vous voulez savoir pourquoi c'est le lion le symbole de Publicis. Voilà, vous pourrez sortir cette histoire.
Voilà, on apprend plein de choses dans les entrepreneurs de légende et on apprend comment il a développé son entreprise parce qu'au début, il n'a rien. Il n'a pas de contact, il n'a pas de réseau, il n'a pas d'expérience, il n'a rien à vendre à ses clients parce que pourquoi les clients iraient faire appel à ce gamin encore, pratiquement hein.
Tu l'as dit, à totalement cette époque, la pub, c'est pas du tout connu, le métier n'existe pas, donc les débuts sont modestes.
Les débuts sont très modestes, alors il joue beaucoup sur l'apparence, toujours très bien habillé, il embauche une secrétaire, mais il a pratiquement aucun moyen, mais il se dit c'est important pour que mes clients, je leur dise, attendez, je vous passe ma secrétaire, ou s'ils viennent au bureau, il y a une secrétaire qui
c'est aussi ça la pub.
Mais c'est ça, voilà, il comprend tout de suite le marketing, l'apparence aussi. Et donc, il frappe un peu à toutes les portes, il se fait jeter à peu près partout, hein, il faut dire ce qui est. Il y a même un patron qui lui donne 50 francs pour qu'on ne parle pas de lui. Et il dit, tiens, écoute, je te donne 50 francs, mais tu me garantis une chose, c'est qu'on ne parlera jamais de moi. Bon, il a quand même gagné 50 francs.
Ça devait être un filou.
Ça devait être peut-être un peu un filou, en effet. Et il a un premier client, un premier vrai client, disons, par des contacts familiaux dans la communauté juive de Montmartre. Il y avait un bijoutier qui était l'ami de ses parents, qui n'aurait jamais fait appel à lui sans ça, qui lui dit, bon, allez, tu te lances, tiens, fais-moi, je te donne pas beaucoup d'argent, c'était sûrement un tout petit contrat, tu me fais une pub pour ma bijouterie. Et à la grande surprise de ce bijoutier, donc il y a une page de pub qui paraît dans un journal, et à sa grande surprise, les jours suivants, il y a une quinzaine de clients qui arrivent dans la bijouterie en disant « Ah, j'ai vu vos produits dans le journal, etc. » Et donc, c'est un peu son premier, on va dire, succès. Et petit à petit, hein, il va faire un petit peu son trou, se faire connaître. Les gens commencent à un petit peu plus parler de lui dans le milieu. Et donc, voilà, à force de ténacité et sûrement aussi d'un très bon feeling avec son métier, il va réussir à faire décoller son entreprise.
Mais surtout qu'il y croit. Il voit qu'il y a des résultats, donc il y croit. Et dans les années 30, au début des années 30, son entreprise, elle vivote, mais ça fonctionne un peu quand même.
Oui, ça fonctionne. Alors, sa stratégie, qui sera toujours sa vision de la publicité, c'est de ne jamais mentir. C'est de montrer le produit tel qu'il est. Lui, il défendra toujours la publicité. Bon, il prêche pour sa paroisse en disant de toute façon, une publicité mensongère ne marcherait pas. Donc, ça sert à rien d'essayer de mentir. Alors, évidemment, on présente le produit sous un angle favorable, mais il faut surtout essayer de le présenter tel qu'il est, parce que si le produit est bon, y a juste à dire voilà quel est le produit pour qu'il se vende bien, pour le faire connaître.
C'est sûrement la principale raison de son futur succès.
Oui, il a sûrement une très bonne idée, une très bonne intuition sur la manière de vendre et de promouvoir les produits. Et donc, ça commence à grandir un petit peu. Il embauche un dessinateur, il embauche quelques salariés. Donc, il fait faire toute la stratégie de communication pour ses clients. Donc, il leur trouve le slogan, il leur trouve les idées, il leur fait les montages photos. À l'époque, c'est avant tout de la publicité dans les journaux. Il leur choisit les supports, plutôt tel ou tel journal, quel média.
Il les accompagne vraiment.
Voilà, il les accompagne de bout en bout. Et en fait, en faisant ça, il invente le métier de publicitaire tel qu'il existe aujourd'hui.
Mais c'est un coup du hasard qui va changer la donne pour lui.
Oui, donc on est dans les années 30. Le principal support de la publicité, le principal média, c'est le journal. Et un jour, alors tu l'as dit, totalement par hasard, il y a un monsieur qui vient le voir dans son bureau et qui dit « Écoutez, moi j'aimerais bien offrir un beau manteau à ma fiancée, mais j'ai pas d'argent.
» D'accord.
Mais par contre, j'ai des contacts et je peux vous avoir un instant d'antenne sur une radio, donc une radio qui émettait à l'époque la Tour Eiffel, la Tour Eiffel qui avait été reconvertie en émetteur radio. Et donc, si vous voulez, voilà, vous me trouvez un marchand de manteaux qui me donne un manteau en échange d'une petite plage où il pourra faire sa pub. Et donc, Marcel Bluestein, bon, qui ne faisait pas de pub radio, se dit pourquoi pas, j'ai un client dans le manteau, allons voir avec lui. Et donc, c'est comme ça qu'il fait sa première pub à la radio. Et un peu comme dans le cas du bijoutier qui avait été son premier client, eh bien, il fait sa pub à la radio et dès les jours suivants, eh ben, il y a plusieurs clientes qui se présentent chez ce marchand de manteaux en disant « Ah, ben, on a entendu parler de vous à la radio, il paraît que vous avez tel ou tel produit. » Et là, il se dit « Il y a un marché énorme à prendre. La radio est en train de naître. » Personne ne s'est encore engouffré sur la pub à la radio, parce qu'à l'époque, la radio, c'est presque rien. On entend très mal, on capte très mal, les programmes ne sont pas du tout intéressants. Mais il se dit, il faut que je fonce, c'est le média d'avenir. Et il va en fait faire son succès, parce que jusqu'à là, c'était un succès assez modeste, mais sa réussite éclatante, ce sera grâce à la radio.
C'est les gens fortunés qui écoutaient la radio au début, donc c'était valorisant de mettre une pub à la radio.
Des gens fortunés, c'était surtout dans les villes aussi, hein, parce que les émetteurs avaient une portée très limitée. Donc il y avait quelques émetteurs à Paris, dans les grandes villes de province, mais c'est vrai que du coup, c'était avant tout des ménages urbains plutôt bourgeois qui écoutaient la radio.
Tu parles des villes, justement, c'est une idée intéressante de Marcel, j'ai envie de dire, puisqu'il va se développer dans la pub radio, mais lui, il va plutôt viser les radios de province.
Oui, parce qu'en fait, il comprend que le marché parisien est déjà un petit peu saturé, en tout cas attaqué par d'autres publicitaires, et il se rend compte qu'en fait, en province, c'est pas encore le cas, que les radios sont en train de se développer, que ça bourgeonne tout juste. Et donc, il va aller voir toutes les radios de province en avion. Il achète un petit avion, il est passionné d'aéronautique, il va apprendre à piloter son petit avion. Et il va aller négocier avec toutes les radios de province naissantes en leur disant, bah, écoutez, moi, je vous garantis X revenus publicitaires. Et en échange, eh bien, vous me donnez toutes vos plages publicité sur lesquelles je peux placer mes clients.
Il croyait vraiment au produit.
Voilà, il croyait au produit parce qu'il s'engageait sur un revenu fixe. Hein, donc, si la radio en tant que média ne décollait pas, bah, il perdait de l'argent, il faisait faillite. Mais il perçoit l'avenir de la radio comme moyen de communication. Et donc, il va vraiment s'implanter, alors peu à Paris, mais dans l'ensemble de la France, et devenir en fait le publicitaire le plus important de la radio en France. En fait.
Ouais, t'imagines le publicitaire qui arrive en avion, ça devait...
Oui, à l'époque, ça devait surprendre.
Oh là, il arrive en avion. Et donc, du coup, il arrive à démocratiser un peu la pub à la radio, mais c'était pas réglementé la publicité à la radio à l'époque?
Alors, au tout début, pas trop, mais ensuite sont apparues donc des radios privées, des radios publiques. La publicité était interdite à la radio publique, mais lui faisait des jeux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une pub où pendant 30 secondes on vous vante les mérites de telle ou telle lessive, il faisait un jeu radiophonique où on pouvait gagner tel ou tel produit. Et donc, en fait,
on parlait du produit.
Voilà, on parlait du produit. Il arrivait à se faufiler et donc il arrivait à placer ses clients même sur les radios où la publicité était en théorie interdite. Et il va aussi inventer la chanson publicitaire.
C'est lui qui invente la chanson.
Les petits refrains, parce que quand c'était la presse écrite, le côté chanté de la publicité était beaucoup moins important, mais avec la radio, ça devient important, et c'est lui qui est le premier à se dire, bah, en fait, une petite mélodie pour un slogan publicitaire, les gens vont beaucoup plus le retenir qu'un slogan un peu sec.
30 ans, il est déjà millionnaire.
Voilà, donc là, avec la radio, c'est vraiment l'explosion de son activité. C'est un peu comme les jeunes start-upers de la Silicon Valley qui aujourd'hui développent l'Internet. Bah, lui, à l'époque, c'était la radio. Donc, c'est vraiment une réussite fulgurante à un âge, en fait, très jeune. Alors, bon, tout n'est pas parfait. La radio publique va vite se rendre compte qu'il fait de la publicité déguisée, ça va être interdit. Il va perdre des contrats à Lyon. À la radio de Lyon, qui était une grosse radio, dirigée à l'époque par Pierre Laval. Hein, et il s'intéresse beaucoup à Pierre Laval, parce qu'aujourd'hui, on se souvient de Pierre Laval, qui a été collabo, exécuté à la fin de la guerre, etc. Et Pierre Laval avait une caractéristique, c'est qu'il portait toujours une cravate blanche. Il a fait toute sa carrière avec une cravate blanche pour qu'on le reconnaisse. Et ça, Marcel Bluestein, qui était publicitaire, donc il s'intéressait beaucoup aux questions de comment se faire connaître, et il avait tiqué sur ce personnage en se disant, tiens,
Pourquoi il fait ça ?
Voilà, il a une vraie stratégie en fait, de communication. Il se vend en tant qu'homme politique comme moi, je vendrais un produit. En fait. Donc c'est assez marrant, cette relation entre le publicitaire et l'homme politique qui pense vraiment sa carrière et sa communication un peu comme pourrait le faire un publicitaire.
Donc tu l'as dit, le début des années 30, c'est plutôt compliqué pour Publicis.
Oui, c'est plutôt compliqué. En fait, il va... Quoi, plutôt compliqué, relativisons.
Oui,
hein, mais
c'est moins fastueux.
Voilà. Mais il va rebondir en fait en faisant lui-même de la radio.
D'accord.
Donc là encore, un petit peu par hasard, un coup, quelqu'un lui dit, bah, écoute, tu fais beaucoup de pubs à la radio, est-ce que tu rachèterais pas une radio, qui est une petite radio
oui,
à racheter.
Oui, il pouvait encore acheter une radio. Donc,
oui, voilà.
Ça allait.
La croissance du chiffre d'affaires avait ralenti, mais ça restait une entreprise prospère. Et donc, il va racheter une petite radio parisienne assez inconnue avec du matériel vieillissant. Il va la renommer Radio Cité et il va embaucher un directeur artistique, Jacques Canetti, donc, qui est aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui est celui qui a découvert une très grand nombre des grands chanteurs et chanteuses français. Et donc, c'est à Radio-Cité, avec Jacques Canetti, qui va faire émerger tout un tas de talents. On pense à Fréhel, Fernandel, Tino Rossi, Pierre Dac, Charles Trenet et même Édith Piaf. Les premières radios qu'on fait Édith Piaf, c'était sur Radio-Cité, la radio de Bleustein, avec Jacques Canetti, hein, à qui il avait délégué. Il avait eu l'intelligence de se dire « Bon, Jacques Canetti est meilleur que moi pour sélectionner les chanteurs ». Et donc, c'est vraiment l'alliance de deux très grands noms du monde parisien à cette époque, Canetti et Bleustein, et ils vont vraiment révolutionner la chanson française avec Radio-Cité.
Et il s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis pour la publicité, et même pour la radio, il a eu l'idée d'importer le principe de radio-crochet.
Oui, des radio-crochets, des concours. En fait, l'idée, c'est de se dire, avec la radio, il n'y a plus forcément une relation à sens unique entre le média et celui qui, disons, lit ou écoute le média. Et donc, il va inventer, pas vraiment, mais en tout cas importer en France, parce que ça existait déjà aux États-Unis, les concepts des concours de chant, les concepts des jeux, où du coup, il peut y avoir une interaction entre l'auditeur et la radio. Et c'est vraiment ça qui va développer et qui fait que Radio-Cité va croître en audience toujours plus, avec aussi des investissements matériels. Il peut émettre jusqu'à 300 km, ce qui à l'époque est une petite révolution. Et donc, ça va devenir un personnage au centre de la vie médiatique parisienne.
Il se lance aussi un peu dans le cinéma.
Alors, un petit peu dans le cinéma, notamment dans tout ce qui est publicité cinématographique. Ça ne deviendra pas son cœur d'activité, mais on voit qu'il est dans la presse, il est dans la radio, il est dans le cinéma. Donc, il étend vraiment ses activités un peu dans tous les types de médias de l'époque.
Mais la guerre arrive.
Alors, la guerre arrive, il est juif, donc son entreprise, son appartement est saisi, son entreprise lui est retirée. Il se cache, alors il part d'abord à Marseille, en zone dite libre, où il tente un peu de se relancer dans le dentifrice, enfin bon, un peu ce qu'il peut, mais ça marche pas très bien. Et après, quand la zone libre, à partir de 42, est occupée, il faut qu'il fuit, parce qu'il il sent bien le danger. Et donc, c'est là que vient son nom de Blanchet, parce qu'il veut se faire des faux papiers. Et il rencontre des résistants une nuit pour faire ses faux papiers. Le résistant lui demande quel nom vous voulez sur votre passeport. Il dit, j'en sais rien. Alors, le résistant prend une lampe électrique, va sur le monument aux morts de la place du village, allume et voit le premier nom, Blanchet. Allez hop, et il met Blanchet sur le faux passeport. Et donc, c'est pour ça qu'après, il gardera ce nom de Marcel Bleustein Blanchet. Et donc, avec ce faux passeport où il prétend être irlandais, il parvient à passer en Espagne, il est arrêté, il est emprisonné, c'est assez compliqué, mais il parvient à se prétendre irlandais, et donc à regagner Londres, et il va être pilote de guerre, hein, parce qu'il a donc, on l'a dit, cette passion de l'aviation, il sait déjà piloter des avions, donc il va piloter pour l'US Air Force, ensuite pour les armées de la France libre, et donc il finit sa guerre pilote contre l'armée allemande.
Donc la guerre se termine, mais derrière, la reprise, elle est quand même difficile pour la société.
Alors la reprise est difficile parce que il n'a plus d'entreprise, hein, elle lui a été saisie, il essaie de la récupérer, mais une grande partie a été, l'activité s'est effondrée, son appartement a été saisi, a été revendu, donc il ne peut pas le récupérer, donc c'est une situation assez difficile pour lui pour rebondir, mais il a toujours tout un groupe d'anciens salariés qui lui disent faut qu'on relance, nous on va pas rester chômeurs, etc. Et puis bon, lui il a la passion de la publicité, c'est son métier, c'est toute sa vie, et donc il relance Publicis après la guerre. Il avait un vague terrain qu'il avait vendu avec un petit capital. Les débuts dans l'après-guerre sont un peu poussifs parce que les radios sont presque toutes nationalisées avec une publicité très encadrée. Donc voilà, c'est un petit peu poussif au lendemain de la guerre. Et puis après, ça décolle dans les années 50. Hein, c'est le début des 30 Glorieuses, début de la consommation de masse. Et donc là, il va vraiment reprendre son activité dans une économie en croissance. Et là, Publicis va retrouver son lustre d'avant-guerre, si je puis dire, et va s'orienter aussi vers un nouveau média parce qu'il est toujours à la pointe de l'évolution de la société, qui est la télévision. Et donc, Publicis va être un des premiers groupes publicitaires à sentir ce filon de la publicité. Il va comprendre comment fonctionne la publicité. Et d'ailleurs, il va même faire la morale au général de Gaulle une fois en lui disant « Mais à la publicité, à la télévision, vous n'avez pas été bon du tout avec votre képi, vous ne savez pas parler, il ne faut pas lire son papier, etc. » Donc, il va vraiment comprendre la publicité. En termes de communication, il comprend à peu près tout. Et donc là, Publicis va effectivement rebondir et devenir le géant de la publicité mondiale qu'on connaît aujourd'hui.
il parle avec les politiques et il parle notamment de sondages avec les politiques.
Oui, parce qu'en fait, lui avait compris que pour mesurer l'impact de la publicité, alors déjà, pour savoir ce que le client attend et pour ensuite mesurer l'impact, il faut avoir des données, des études, des enquêtes. Et donc, il s'était très tôt intéressé à tout ce qui est sondage d'opinion. Et au début des années 50, hein, les hommes politiques ne sont pas encore très versé là-dedans. Il n'y a pas encore tous les sondages comme aujourd'hui où on fait des sondages 5 ans avant l'élection en vous disant ce sera plutôt tel ou tel candidat. Donc il va innover là-dedans. Il va au début pour son métier de publicitaire et puis ensuite il va développer donc des outils de sondage qui vont intéresser des politiques. Donc lui il est on va dire apolitique si je puis dire dans le sens où il fréquente aussi bien la gauche que la droite. Et oui, il va nouer des relations, même d'amitié parfois, avec certains hommes politiques qui, en fait, sont très intéressés par ces techniques de sondage qu'il est un de ceux qui maîtrisent le mieux en France.
Une des raisons du succès de ses publicités, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il essaye de faire de la publicité sincère, mais c'est aussi, et notamment ça se verra à la télévision, qu'il donne aux publicités un vrai côté professionnel. Il professionnalise vraiment le domaine.
Oui, bah c'est vrai qu'avant lui, en fait, en tout cas en France, la publicité, c'était un peu quelque chose d'amateur. Il n'y a pas de formation. C'est lui qui va en fait presque créer les premières formations de publicitaire. Il va même donner des cours à la Sorbonne pour expliquer comment on fait de la publicité. Donc le publicitaire ne sera pas un autodidacte, un peu comme lui l'avait été, qui est arrivé dans le métier un peu la fleur au fusil, si je puis dire. Et donc, il va vraiment y avoir une réflexion d'ensemble sur les différentes étapes. Et donc, ce sera... analyser, chiffrer, et puis plus seulement, hop, on fait un peu de publicité, et puis on voit ce que ça donne, quoi.
Un des importants virages, en plus de la télévision à cette époque pour Publicis, ça va être la création d'un drugstore, qu'on connaît maintenant encore.
Oui, voilà. Je dirais que Publicis est presque plus connu, en tout cas des Parisiens, pour son drugstore
ou
pour les touristes que pour la publicité. Donc l'idée de son drugstore, c'est de faire une sorte de grand magasin sur les Champs-Élysées où en fait on pourrait trouver un peu de tout, donc une librairie, une pharmacie, un café, et où on viendrait en fait tout autant flâner que faire ses courses. Donc c'est un lieu à la fois commercial et à la fois de détente et de culture. Alors chez Publicis, personne n'y croit. Personne, il est le seul à porter son projet. Mais il y croit, il a l'instinct de l'air du temps et de la clientèle. Et donc contre l'opinion de ses collaborateurs, il lance son drugstore Publicis sur les Champs-Élysées qui sera un immense succès et qui est même rentré dans la culture populaire qui existe encore sur les Champs-Élysées et qui a vraiment fait parler de la marque et qui donne une identité à la marque.
C'est vraiment un vrai coup de pub, du coup, pour Publicis.
Aussi, Publicis fait sa pub grâce à son drugstore.
Il s'affiche sur la plus belle avenue du monde, quoi.
Voilà, une adresse très prestigieuse près de l'Arc de Triomphe. Alors, le drugstore a brûlé, il y a eu un terrible incendie, mais a ensuite été reconstruit. Et donc, grâce à ça, il fait un petit peu sa propre pub, en fait, pour un publicitaire, hein, c'est pas si bête.
Alors, en dehors de ses obligations professionnelles, Marcel va aussi créer la fondation de la vocation. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors, il avait, en parallèle de son activité de chef d'entreprise, on va dire une fibre sociale, l'envie d'améliorer le monde, si je puis dire. Et donc, la fondation de la vocation, c'est de financer, on pourrait dire, un peu des bourses pour des jeunes chercheurs, des gens qui ont des idées. Et notamment, il va financer l'anthropologue Yves Coppens, hein, qui a un peu révolutionné son domaine, mais aussi beaucoup d'autres, alors plus anonymes, chercheurs, jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on dirait un peu du business venture capital,
ouais.
Donc, un peu financer des projets comme ça, de gens qui lui semblent talentueux et qui ne trouvent pas forcément de soutien ailleurs. Et il dira vers la fin de sa vie qu'il est aussi fier de sa fondation que de son entreprise, parce qu'elle a permis à beaucoup de projets d'éclore qui n'auraient pas pu naître sans lui.
Il quitte Publicis en 87.
Voilà, il prend sa retraite en 87, il cède la direction à Maurice Lévy, qui est une des grandes figures du patronat parisien. Il décède quelques années plus tard, en 96, et il est à ce moment-là un des publicitaires les plus en vue, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier, hein, aux États-Unis. Il est le seul non-américain à avoir eu une étoile sur le Hall of Fame de la publicité, comme ils disent. Donc c'est un peu comme à Hollywood, mais pour des publicitaires. Et voilà, c'est très rare que des non-américains aient été célébrés par cette institution de la publicité américaine. Donc c'est vraiment le publicitaire, en tout cas en France, qui a professionnalisé, mais même à l'échelle internationale, hein, il fait partie des publicitaires qui ont été les plus novateurs. Et donc il laisse un groupe qui est toujours un des plus grands groupes de la publicité, et dont le principal actionnaire, hein, est Elisabeth Badinter, sa fille, qui a épousé l'ancien garde des Sceaux, qui ne dirige pas l'entreprise, mais qui est toujours actionnaire de Publicis.
Et donc, si depuis le décès, tu le dis, l'entreprise Publicis a quitté le giron familial, on peut se dire que grâce à l'actionnaire principal, elle est toujours un peu sous le regard de Marcel Bleuchten-Blanchet. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle donc Sylvain que cette histoire, elle est tirée de ton tout dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Entrepreneur de légende français, volume 2 ». Je l'ai lu en entier, ça y est Sylvain, il est super, on va faire plein de portraits dans le podcast, mais vous, si vous avez envie de les lire dès maintenant, vous allez dans n'importe quelle bonne librairie. Je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux à nous partager, à nous écouter, vous continuez évidemment à le faire. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit à bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.